là que tout a commencé. Un petit film de 5 minutes 46 pour la troisième scène, la plateforme virtuelle de l'Opéra de Paris, réalisé en 2017 sur l'air des Sauvages, extrait de l'opéra ballet Les Indes Galantes de Jean-Philippe Rameau. Un de ces films d'une force extraordinaire qui font l'effet d'une petite bombe et qui ne vous lâche pas tant il dégage quelque chose d'hypnotique. 2 ans après, le petit court-métrage a donné naissance à l'opéra entier et le réalisateur, artiste accompli malgré son jeune âge et qui entre-temps a obtenu le prix Marcel Duchamp, s'est fait metteur en scène et sa création triomphe à l'Opéra Bastille en ce moment. Clément Cogitor, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin.
Merci de l'invitation.
C'est par ce petit film que tout a commencé vraiment ?
Oui, exactement, oui. Je l'ai tourné début 2017 et il s'est fait assez vite. Et donc après le tournage, c'était juste quelques jours de montage. Et puis ensuite, le premier spectateur des films de cette collection, c'est Stéphane Isner, le directeur de l'Opéra de Paris. Et ça lui a beaucoup plu. Et il se trouvait qu'il cherchait à monter cet opéra-là depuis plusieurs années pour la saison anniversaire des 350 ans de l'Opéra de Paris. Et qu'il était prêt à ranger le projet aux oubliettes parce que il trouvait pas soit le metteur en scène ou les metteurs en scène refusaient l'œuvre. Et puis en voyant ce film-là, il s'était dit que, enfin, quelques jours plus tard, il me l'a proposé. Et puis
vous avez hésité, vous n'aviez jamais fait d'opéra.
Non, j'ai jamais fait d'opéra. J'ai immédiatement dit oui, mais dans ce genre de cas, je sais qu'il faut pas réfléchir, il faut réfléchir après. Enfin, l'opéra, c'était un rêve lointain de dire j'aimerais bien que ça m'arrive un jour. Et puis du coup, c'est arrivé vite.
Voilà. Si on remonte plus loin encore, c'est en fait partie de la danse d'un côté et puis de la musique de Rameau de l'autre pour vous intéresser à cet opéra et faire ce petit film, Clément Cogitor.
Tout est parti de la musique elle-même. C'est une musique qui est faite, la musique d'opéra en général, mais particulièrement celle des Indes Galantes, elle est faite pour provoquer des images, que l'imagination se déploie. Et donc cette musique-là à éveiller ces images-là ou ces sensations-là dans mon imaginaire. Et donc j'ai cherché des danseurs et des chorégraphes qui pourraient
les mouvements.
La faire exister, quoi, pour la caméra. Et voilà, je me suis dit que cette musique-là, et ces danses-là, ces corps-là, ces énergies-là avaient des choses à se dire.
Alors ces corps-là et ces danseurs-là, en l'occurrence dans le petit film qu'on continue d'entendre, on a les images dans la tête en entendant cette musique, c'est des danseurs de Crump. Il faudrait que vous nous rappeliez ce que c'est le Crump, dont vous dites que c'est un enfant furieux du hip-hop. Un mouvement plutôt jeune, hein ?
Oui, c'est un mouvement qui est né à la fin des années 90, dans les quartiers de Los Angeles, après les émeutes qui ont suivi le passage à tabac de Rodney King. Et c'est une danse qui exprime des tensions extrêmement fortes, qui figurent en affrontement presque. Les danseurs presque se défient les uns les autres. Et il y a quelque chose de très cathartique.
Comme si le mouvement se substituait à la violence physique.
Exactement, c'est ça. Et voilà, et tout est parti de ça. Et puis quand il s'agit de mettre en scène l'opéra lui-même, là, c'est un spectre beaucoup plus large de danse qu'avec la chorégraphe Bintou Dembélé, on a invité à travailler avec nous.
Oui, parce qu'il y a le Crump qu'on retrouve tout au long de l'opéra, mais il y a un certain nombre d'autres danses que vous avez effectivement travaillé avec Bintou Dembélé, on va y revenir. Mais juste un lien, une question sur le lien que vous pouvez faire entre ces images suscitées par la musique des Indes Galantes, et pas seulement l'air des Sauvages, qui arrive vraiment à la fin, en plus de cet opéra, et ce type de danse, les danses urbaines, pas seulement le Crump, mais ces types de danses urbaines. Qu'est-ce que vous faites comme lien, vous ? Qu'est-ce que vous avez comme image dans la tête quand vous entendez ça, pour le relier à ces danses ?
En fait, c'est surtout des intuitions. Je vois dans les danses urbaines des tensions assez fortes qui s'expriment. Et dans les danses urbaines, il y a beaucoup de familles différentes, il y a des générations aussi très différentes. Moi, n'étant pas du tout spécialiste de la danse, ne venant pas de là, il y a quelque chose de formidable que non, peut-être que la musique et la danse, qui est que ça passe pas par l'intellect, enfin ça passe pas par...
organique.
C'est organique, ça passe pas par un présupposé culturel ou des... On n'a pas besoin de la comprendre. La danse et la musique, c'est des choses qui vont nous chercher en court-circuitant un petit peu l'intellect. Et donc, les choses se racontent un peu plus directement. Et j'ai senti que ce qui se racontait dans pas mal de ces danses avait des choses à voir avec les tensions qui pouvaient être exprimées dans cette musique.
Ça marche aussi très bien avec le baroque. C'est-à-dire que dans le baroque, on entend du hip-hop, on entend du swing. Et ça, beaucoup de chefs d'orchestre d'aujourd'hui le disent, qu'il y a un vrai rapport entre la musique baroque et l'ambiance, l'esprit, le swing, le hip-hop.
Il y a une dimension rythmique qui est vraiment très forte dans le baroque. Et puis chez Rameau, il y a aussi, et dans les Indes Galantes, Rameau préfigure énormément de choses de la musique, de choses qui vont arriver plus tard. C'est-à-dire, même des fois, quand on entend certains airs, on a presque l'impression d'entendre du jazz si on l'orchestre un peu différemment. Donc c'est extrêmement riche. Mais ça a déjà été fait, ce sera fait après aussi, il y a d'autres chorégraphes, d'autres metteurs en scène qui l'avaient fait avant et qui le feront après, mais de faire se rencontrer le hip-hop, les danses urbaines et le baroque.
Si Villard Bicherkaoui avait chorégraphié les Indes Galantes.
Il l'avait fait à Munich, ensuite Montalvo avait fait les Paladins de Rameau en 2004, hein, avec des danseurs, mais ce qu'on a juste essayé de faire, c'est que, voilà, par exemple, entre 2004 et maintenant, les danses issues du hip-hop sont beaucoup changées, il y a beaucoup de choses qui sont apparues. Et ce qu'on a essayé simplement, c'est de le faire à notre manière, avec cette musique, à ce moment-là, avec ces danseurs-là.
Clément Cogitor, comment on s'attelle à un opéra-ballet comme celui des Indes Galantes, qui est quand même assez difficile? Déjà, il est impossible à résumer, il y a quatre tableaux, quatre histoires qui n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres, sinon par le biais d'intrigues amoureuses et d'un thème central qui est sans doute l'éloge de la domination française sur le monde. On est au XVIIIe siècle, hein, on est au siècle des Lumières. Comment avez-vous fait pour vous atteler à un tel monument? On le prend par quel bout?
Alors, effectivement, c'est très compliqué parce qu'on peut difficilement se reposer sur le livret, parce qu'il est très éclaté et il est considéré comme un des livrets les plus pauvres ou les plus indigents, on dit, de l'histoire de l'opéra, parce que Rameau s'intéressait pas trop à la qualité des livrets. C'était un prétexte pour lui à faire de la grande musique et à faire de la... Enfin, le livret était aussi un prétexte à faire des images et à danser. Du coup, c'est des livrets qu'on peut difficilement se reposer sur la dramaturgie, sur les personnages, et qui pourtant racontent des choses d'une époque et racontent des choses de la France, de l'Europe et de l'Occident à un moment donné très particulier de l'histoire, qui est celui des Lumières.
C'est par là que vous avez voulu le prendre, par cette dimension politique du moment?
Voilà, en fait, il y a une dimension politique dans l'œuvre qui raconte des interactions amoureuses et politiques d'hommes et femmes, entre des hommes et femmes occidentaux ou européens, et des hommes et des femmes d'autres continents.
Turcs, Incas, Perses.
Voilà, exactement. Et là-dedans, il y a dans ces interactions-là,
Indien.
Il y a des malentendus qui sont parfois conscients, c'est-à-dire des sortes de quiproquos de théâtre, et parfois des malentendus inconscients, où les personnages pensent parler de la même chose, et en fait, ils ne parlent pas de la même chose. Par exemple, le livret confond le mot paix et le mot victoire. Pour les personnages, c'est la même chose, alors qu'en vrai, c'est la même chose pour le vainqueur. Voilà, et c'est ces choses-là que j'ai essayé de révéler, ou en tout cas d'interroger.
En gardant la même lecture ou en renversant la donne?
Parfois en me détachant du livret, ou en montrant des désaccords qui pouvaient se faire entre des personnages, malgré eux parfois, ou en révélant des tensions qui ne sont pas forcément visibles quand on les voit au premier degré. Et ce que j'ai essayé, c'est de ne pas éviter la dimension politique de l'œuvre, de ne pas chercher à le... Parce qu'à l'origine, c'est vraiment un divertissement.
Oui, c'est l'autre dimension, c'est quand même une œuvre de divertissement.
Et j'ai essayé de surtout pas résumer l'œuvre aussi à cette dimension-là du malentendu politique, qui en fait est celui du colonialisme, en fait, qui à ce moment-là, l'homme des Lumières est en train de... Derrière l'humanisme et l'intérêt pour les cultures non occidentales, il est en train de passer du cliché du sauvage sanguinaire au cliché du bon sauvage. C'est-à-dire qu'on rentre dans la philosophie de Rousseau, de cette idée-là de l'étranger qui vit dans les forêts et qui est sur le bas-côté de l'histoire.
Clément Cogitor, est-ce que cette démarche que vous avez eue est aussi politique dans le fait même de faire entrer les danses urbaines à l'opéra, en l'occurrence à l'opéra de Paris, c'est-à-dire de faire se rencontrer deux mondes qui traditionnellement s'ignorent. Le crump pour parler de la danse des sauvages, mais on pourrait très bien effectivement parler des autres danses, le voguing, le breakdance, le walking, le gliding, le popping, tout ça est sur scène aujourd'hui. Et l'opéra, c'est-à-dire en fait comme si vous ameniez la marge ou la périphérie au centre.
À la fois oui et non, c'est-à-dire que inévitablement ça devient politique sur une... enfin dans ce théâtre-là, dans cette institution-là, sur cette musique-là. Mais moi j'ai surtout travaillé avec des danseurs avec qui j'avais extrêmement envie de danser,
de travailler. danser aussi d'ailleurs.
Et j'avais envie de les voir danser sur cette musique-là, leur danse qui pour moi me raconte énormément de choses importantes, des choses fortes et que je retrouve dans cette musique. Et je sais plus quel écrivain disait, mettez deux choses en contact qui n'ont jamais été en contact avant et le monde se met à changer. Et je crois pas que ce soit le hip-hop et l'opéra ou hip-hop et Rameau qui fassent ce choc-là, mais ces énergies-là, à ce moment-là donné, de ces danseurs-là et de ces chanteurs avec cette musique qui, à un moment donné, produit une rencontre à laquelle je crois et qu'elle peut être unique à un moment donné. Et pour moi, ça dépasse le combat politique qui, pour moi, devrait être loin derrière nous. C'est-à-dire que la scène, elle doit être ouverte à un nombre le plus large possible d'expressions de culture. C'est un combat qui devrait être déjà derrière nous, je pense. Oui.
Est-ce que c'est un public différent qui vient à l'opéra? Est-ce que vous avez constaté cela depuis que le spectacle a commencé il y a quelques jours?
Alors, j'ai pu m'en rendre compte déjà à l'origine qu'il y a des publics d'opéra différents en fonction des œuvres, en fait. C'est-à-dire que le public wagnérien n'a rien à voir avec le public d'une Flûte enchantée, qui est aussi beaucoup plus large. Enfin, j'ai le souvenir d'avoir vu une Flûte enchantée à Bastille où il y avait un enfant de 6 ans ou 5 ans qui riait aux éclats dès qu'il entendait Papageno. Et ça va avec ce qu'est la Flûte enchantée, qui était aussi un opéra extrêmement populaire, presque tourné vers l'enfance ou vers le jeune public, comme un conte, quoi. Et que déjà, avant de parler des Indes Galantes, enfin de ce spectacle-là, il y a un public différent. Le public d'opéra n'est pas si homogène que ça. Et j'espère que les Indes Galantes ont attiré... vont attirer des gens qui n'avaient pas forcément l'envie ou l'idée de mettre les pieds à l'Opéra Bastille avant.
En tout cas, c'est un vrai triomphe public. On entendait tout à l'heure la voix de Julie Fuchs, voilà celle de Sabine Devielle qui chante Fanny dans un véritable moment de grâce dans votre mise en scène, Clément Cogitor, puisque pendant que Sabine Devielle interprète ce chant de Fanny, autour d'elle circule un jeune danseur qui est avec des baskets assez grosses, assez imposantes, et il est sur les pointes. Et il tourne autour de Sabine Devielle sur les pointes. C'est un moment de grâce absolue. Comment avez-vous travaillé donc avec Bintou Dembélé, qui n'aime pas tellement le mot de chorégraphie, parce qu'elle veut laisser l'énergie, le mouvement, l'improvisation, le côté déstructuré tout en cadrant les choses. Mais comment avez-vous travaillé pour faire le lien entre la chorégraphie et la mise en scène?
Ce dont on avait envie avec Bintou, c'était d'un spectacle où soit très difficile de dissocier ce qui est de l'ordre de la mise en scène et ce qui est de l'ordre de la chorégraphie. Que la danse contamine tout le plateau, et ce qui fait que les chanteurs et les chanteuses dansent aussi sur scène. Mais pour ce moment-là en particulier, c'était assez vite une évidence que là, ça allait être un moment de solo pour Sabine et puis pour Cole Hunt, ce danseur qui est venu de New York pour ce moment-là, qui a rejoint la troupe française, parce que c'est le type de danse et de mouvement qui fait, il y a extrêmement peu de danseurs qui savent le faire. Et voilà, il est venu de Brooklyn pour danser sur la voix de Sabine Devielle.
Alors ça, c'est un moment très très doux, hein, qui contraste d'ailleurs avec la danse du Calumet de la Paix de l'ère des Sauvages, qui est à la fin de l'opéra. Au milieu, on a 3h30 de spectacle, avec effectivement beaucoup d'énergie. D'ailleurs, vous dites, Clément Cogitor, que pour vous, Les Indes Galantes, c'est une histoire de jeunes gens qui dansent au-dessus d'un volcan. Ça veut dire quoi ?
En fait, dans l'œuvre, il y a un volcan. À un moment donné, c'est des personnages sont autour d'un volcan, assistent à cette éruption-là. Et pour moi, c'est l'image que ça produit de se dire qu'il y a, il y a des forces, il y a quelque chose qui est prêt à exploser, et tout autour, on danse. Et pour moi, ça, je le relie à une citation de Voltaire qui est assez étrange sur l'opéra à ce moment-là, enfin l'opéra français. Donc Voltaire est contemporain de Rameau. Et à ce moment-là, l'opéra bouge beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a l'opéra italien qui est en train de prendre une place très très importante. Et l'opéra français, qui est en fait l'opéra ballet, qui a une forme très spécifique, va se terminer avec Rameau. Et on s'interroge beaucoup sur quelle direction l'opéra doit prendre entre l'opéra italien et l'opéra ballet à la française. Et en fait, c'est l'opéra italien qui va l'emporter. Mais on sent qu'il y a quelque chose de très très particulier qui n'appartient qu'à l'opéra français dans ce mélange de danse, dans ce grand spectacle, parfois absurde sur des livrets improbables. Et donc Voltaire écrit « L'opéra est un spectacle aussi bizarre que magnifique, où il faut chanter dans la destruction et danser au-dessus d'un tombeau. » Ce qui est très étrange pour la forme qu'a l'opéra ballet, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'assez destructeur dans ce qu'il dit, et en même temps l'opéra ballet est une sorte d'éblouissement merveilleux, coloré, léger, à l'inverse du théâtre dramatique où il s'agit de choses très sérieuses. Dans le théâtre lyrique de cette époque-là, c'est, on y va pour s'amuser, pour s'enchanter, et pourtant Voltaire écrit ça. Et j'aime beaucoup cette idée de danser au-dessus d'un tombeau ou d'un volcan, de se dire que c'est une sorte de dernier tour de piste avant que quelque chose explose. Et c'était aussi pour moi l'intuition de se dire de mettre en scène une œuvre lumineuse pour des temps obscurs.
Voilà. De fait, vous avez disposé un cratère au centre du plateau qui sert pour chaque tableau et qui suscite des images. C'est peut-être ce volcan-là qui fait le lien entre le XVIIIe siècle et aujourd'hui, puisque dans notre esprit de spectateur, on a des images de migrants naufragés, de prisonniers, de prostituées, de CRS, de défilés de mode. Et là, on a ce fil tendu entre les siècles. Vous restez avec nous, on vous retrouve dans 2 minutes, Clément Cogitor, pour reprendre le fil de cette conversation. Il est 7h30 sur France Culture. On retrouve notre invité, le metteur en scène aujourd'hui des Indes Galantes, Clément Cogitor. Mais Clément Cogitor, vous êtes un artiste, vous êtes vidéaste, vous êtes plasticien, vous êtes cinéaste. Vous pratiquez votre art à mi-chemin entre le cinéma et l'art contemporain. Est-ce que d'ailleurs, il y en a un plus que l'autre pour vous ? Est-ce que vous diriez que ce qui vous attire le plus, c'est l'art au sens général ou c'est l'image, par exemple, le travail sur les images ?
C'est quand même principalement l'image et la mise en scène d'image. C'est-à-dire que même sur la scène d'opéra, je pense que j'ai, surtout avec cette œuvre-là qui est faite pour ça.
Les Indes Galantes de Rameau, donc.
C'est une œuvre qui est faite pour produire des images, pour déployer l'imaginaire. Donc c'est plutôt ça qui fait le cœur de mon travail.
Donc là, ça correspondait bien aussi à vos centres d'intérêt.
Oui, ouais, ouais. C'est-à-dire que je pense qu'il y a plein d'opéras, même la plupart, que je serais incapable de mettre en scène, mais quelques-uns qui font appel à ça, c'est, là, je sens que c'est plus mon monde, mon univers.
On vous doit un certain nombre de courts-métrages, dont celui qu'on a entendu tout à l'heure pour avoir suscité des images en nous, qui est donc sur l'ère des Sauvages, qui date de 2017. Mais il y en a un certain nombre que vous avez réalisé, Clément Cogitor. On vous doit aussi un long-métrage, Ni le ciel ni la terre, qui a été primé, puis un autre, Braguino. Est-ce que vous savez d'où vient l'idée ou l'envie de faire un film sur tel ou tel sujet, comme la révolution égyptienne ou comme la guerre en Afghanistan ?
Pas vraiment. C'est un peu, je crois que quand je me lance dans un projet, c'est un peu quand on tombe amoureux, on sait pas pourquoi. Et puis petit à petit, quand une relation se construit, qu'on comprend, on sait pourquoi on s'engage avec quelqu'un, avec une idée ou avec un projet, une situation. C'est un peu comme ça que ça se passe. Mais il y a toujours cette idée que je m'intéresse beaucoup à la manière dont on se raconte des histoires, la croyance qu'on met dans des choses, dans les histoires qu'on se raconte, dans des choses qu'on ne voit pas, sur Oui, la question de la fiction m'intéresse énormément. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin autant de se raconter des histoires? Qu'est-ce qui manque donc au réel pour qu'on ait besoin de se raconter autant d'histoires?
En ce moment, on peut voir au musée Marc Chagall de Nice une exposition qui vous est consacrée et qui a d'ailleurs été prolongée jusqu'au 28 octobre. Est-ce que vous avez, selon vous, des points de rencontre possibles avec Marc Chagall? Est-ce que du point de vue de la mémoire, puisque vous vous intéressez à la mémoire, du point de vue du rapport au sacré, au conflit, par exemple, il y a des choses avec Marc Chagall?
Oui, mais quand Anne Dopfer, la conservatrice et directrice du musée, m'a invité l'année dernière ou il y a 2 ans à faire une exposition, j'avais beaucoup regardé l'œuvre de Chagall, mais il y a longtemps. Et j'ai pas tout de suite vu les liens qu'elle pouvait faire entre mon travail et celui de Chagall. Et puis petit à petit, en parlant avec elle, en regardant, en replongeant dans l'œuvre, en allant au musée, en allant dans les réserves, tout d'un coup j'ai vu pourquoi elle m'avait invité, et qu'effectivement il y avait des liens. Mais oui, la question de la représentation du sacré, la question du conflit, la question du récit fondateur, du récit mythologique, voilà. Et donc du coup, on a composé on construit un dialogue entre les pièces de Chagall et les miennes. Et alors, il y a aussi des choses radicalement différentes. Enfin, moi, je suis très très nourri par la peinture, donc de toute façon, pour moi, c'est tout dialogue avec la peinture pour moi m'enrichit énormément. Mais par exemple, Chagall est un très grand coloriste, et moi, je travaille beaucoup plus dans le monochrome. Donc, je retiens énormément la couleur. Donc voilà, on est parfois parti dans mes pièces les plus colorées, et puis parfois celles qui sont chez Chagall beaucoup plus monochromes, et pour essayer de créer une cohérence visuelle, c'est-à-dire que ça a provoqué une sorte de petit déplacement dans les œuvres ou de la manière dont on a montré mon travail, et je pense aussi celui de Chagall. Moi, ce que j'aime et ce qui guide un petit peu mon travail, c'est la question du déplacement, que ce soit un déplacement en allant exposer dans le musée de Marc Chagall ou en travaillant à l'Opéra de Paris avec ce groupe de danseurs et de chanteurs. C'est-à-dire, j'aime bien me retrouver dans des situations où je dois tout réapprendre de zéro, enfin de pas savoir comment m'en sortir à chaque fois. Voilà, de me mettre dans des situations où je me dis que ça, je l'ai jamais fait et qu'il va falloir que je trouve des solutions que je n'ai jamais trouvées avant. Et du coup, ça m'amène à parfois à me casser la figure ou à beaucoup de maladresse, mais ça m'amène à aller dans des endroits où je serais jamais allé autrement.
Par exemple, à la base sous-marine de Bordeaux, où on va exposer à partir du 15 octobre prochain votre travail vidéo et filmique.
Oui, c'est une exposition qui ouvre le 15 octobre, où je montrerai, je crois que c'est la première fois qu'il y aura autant de vidéos que j'ai réalisées, enfin, et d'installations qui seront présentées. Et l'exposition dure jusqu'en janvier.
On va se quitter en musique avec un choix qui vient de vous, Clément Cogitor. Vous êtes en ce moment dans la musique baroque, manifestement. Donc vous nous avez proposé Purcell.
C'est un air de La Tempête. C'est un semi-opéra de Purcell, d'après Shakespeare. Et c'est une musique qui est vraiment un absolu de beauté. Pour moi, ce n'est pas de la musique, c'est de la sorcellerie, quelque chose comme ça. C'est un envoûtement total.
Perche tendue à un prochain directeur d'opéra pour peut-être, que vous puissiez le mettre en scène. À bon entendeur, salut. Merci beaucoup Clément Cogitor.
Merci à vous.
Alors les Indes galantes avec le chef d'orchestre Leonardo Garcia Alarcón, la chorégraphe Bintou Dembélé. C'est avec Sabine Deviel, Julie Fuchs, Stanislas de Barberac, Jody DeVos, Alexandre Duhamel et d'autres. Et puis, 29 danseurs et danseuses, et c'est jusqu'au 15 octobre à l'Opéra Bastille. Le spectacle sera diffusé en direct le 10 octobre à 19h30 sur Arte Concert et dans les cinémas UGC, et le 19 octobre à 20h sur France Musique. Le 15 octobre, quand ça s'arrête, vous continuez, vous, à Bordeaux, puisque commencera l'exposition à la base sous-marine. Et jusqu'au 28 octobre, on peut voir votre travail également exposé au Musée national Marc Chagall de Nice. Un grand merci à vous.
Merci à vous.